Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le film qui rafle tous les prix depuis quelques semaines et qui est le grand favori des prochains Oscars, La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, sort aujourd'hui en salle. On en parle dans un instant avec Stéphane Boutsock qui a beaucoup aimé. Après 10 ans d'absence, l'icône de la musique folk américaine, Joan Baez, publiera le 2 mars un nouvel album et donnera une série de chansons en France en juin prochain. Joan Baez dit adieu aux tournées. À suivre ses confidences au micro de Stephen Bellery. Olivia Leray a préparé pour nous ses express du jour et puis nous irons nous promener dans les villages de Bourgogne. Ils sont au cœur du magazine Des Racines et des Ailes, diffusé ce soir sur France 3. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Une très large page cinéma, donc pour commencer, avec vous Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Dans un instant, quelques-uns des 13 nouveaux films à l'affiche ce mercredi, mais tout d'abord, notre traditionnel point sur les entrées de la semaine écoulée.
Le tout avec nos amis du site cbo.fr et cette question, où s'arrêteront les tuches 3,
mais
le film, c'est bien parti en tout cas. Le film d'Olivier Barou a dépassé les 4 300 000 entrées. Le score du deuxième volet sera dépassé en fin de semaine et les vacances scolaires évidemment amplifient encore le phénomène. A noter le démarrage tonitruant de Black Panther, le dernier Marvel. Déjà plus d'un million d'entrées en une semaine. Celui de Belle et Sébastien 3 de Clovis Cornillac, 620 000 spectateurs. Très beau score. Et puis le très bel accueil réservé au retour du héros film RTL avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Plus de 320 000 entrées.
On passe maintenant en revue les nouveautés de ce 21 février. Pour commencer, un gros coup de cœur, Stéphane. La Forme de l'eau, le nouveau film du Mexicain Guillermo del Toro.
Alors, son nom n'évoque sans doute pas grand-chose pour le très grand public, mais nous avons affaire avec ce réalisateur à un artiste artisan qui a le don d'allier le film de genre, c'est-à-dire le thriller, l'horreur ou le fantastique, avec une vraie patte d'auteur. On lui doit notamment Le Labyrinthe de Pan, Hellboy, Pacific Rim, et donc La Forme de l'eau, une splendeur, une merveille de cinéma, nommée à juste titre. Titre 13 fois pour les prochains Oscars. Lion d'or à Venise. L'histoire, on est en 62, en pleine guerre froide. Elisa, une femme muette, employée dans une base des services secrets, va tomber amoureuse d'une créature amphibie, mi-homme, mi-monstre, qui sert en fait de cobaye aux scientifiques. L'occasion de creuser un sujet de fond, le film renvoie à notre peur de l'étranger, donc de l'inconnu. Guillermo del Toro.
I was a Catholic boy, and there was a poem about Saint Francis.
J'ai été élevé dans le catholicisme et je me souviens d'un poème dans lequel Saint François convainc un loup à cesser de tuer et à devenir bon. Ensuite, le loup revient vers le village et rencontre à nouveau Saint François, lequel lui dit « On me dit que tu tues à nouveau. Pourquoi ?» Réponse du loup, « Saint François, je suis devenu bon et on m'a d'abord bien traité au village. Mais peu à peu, ils se sont fatigués de moi et ils ont commencé à me frapper et à m'affamer. La rage est montée en moi, me faisant réaliser que je suis un loup et que tu es un saint. Continue à l'être et fiche-moi la paix. » C'est une belle leçon et je crois que les monstres sont ainsi. Ils ne sont monstrueux qu'aux yeux d'humains arrogants. Celui qui comprend que la vie et l'âme s'offrent sous plein de couleurs, de races, de religions ou d'aspects physiques peut tomber amoureux d'un monstre parce que le monstre est le saint patron de l'étranger. La manière dont vous les regardez vous dit qui vous êtes vraiment.
Sally Hawkins, Michael Shannon ou encore Octavian Spencer, troupe de comédiens formidables à l'affiche de La Forme, pardon.
C'est la musique qu'on entend là.
Oui, c'est la musique justement parce que la musique signée du français Alexandre Desplat est nommée aux prochains Oscars. C'est d'ailleurs le favori Alexandre, il a reçu le BAFTA et le Golden Globe déjà. Allez voir, courez voir La Forme de l'eau. Puisqu'on parle des Oscars, je vous rappelle aussi, on en parlait lundi, la sortie ce mercredi de Moitonia de Craig Gillespie avec Margot Robbie qui raconte le destin et la carrière chaotique de la patineuse Tony Harding.
Alors nous sommes en pleine vacances scolaires et la sortie jeunesse de ce 21 février, ce sont les aventures de Spirou et Fantasio d'Alexandre Coffre.
Qui n'en manque pas de Coffre pour s'attaquer au premier film mettant en scène ces deux héros de BD imaginés par Rob Vell pour les éditions Dupuis, ça ne nous rajeunit pas, c'était en 1938. Un groom intrépide et un reporter psychorigide embarqués dans une série d'aventures qui les voient affronter entre autres le redoutable Zorglub, le comte de Champignac, aidé par la ravissante Sécotine et l'écureuil, vous le faites aussi l'écureuil?
Non, je ne sais pas faire
Spip. Retrouvez tous ces ingrédients dans le film sous la forme d'une épatante adaptation des albums Spirou et Fantasio, du rythme, des gags, du dépaysement. Le film notamment a été tourné au Maroc, je vous avais raconté tout ça au printemps depuis Marrakech. Casting malin, Christian Clavier, Ramzi Bedia, Géraldine Nakache et dans les rôles principaux, Thomas Soliveres, c'est lui qui incarne Spirou. Je lui ai demandé ce qu'on ressentait en enfilant le costume rouge du plus célèbre des grooms.
C'est très émouvant déjà.
C'est vraiment un très très beau travail. En plus, c'était fait sur mesure, donc c'est vrai que c'était un peu une autre peau. Je vous raconte pas le nombre de rouges qui ont été passés en revue pour trouver le bon rouge. Parce que dans la BD, il est passé par plein d'étapes. Il y avait un costume de groom complet, puis ensuite, il a enlevé sa veste. Il avait un col roulé blanc, plus une petite veste. Il avait des gants, pas de gants. Les guêtres, pas de guêtres. Enfin, donc, il fallait vraiment trouver la bonne formule pour être incarné le Spirou réel et en même temps le moderniser pour en faire un personnage pas de tous les jours mais en tout cas comme un super-héros. Ouais.
Alors voilà pour Spirou, parole maintenant celui qui incarne Fantasio, Alex Lutz, le comédien triomphe sur scène avec son dernier one-man show à la télé dans le programme Catherine et Liliane sur Canal+. Amoureux du texte et des mots, il a dû se plier au langage très ping-pong du film.
Bah, tu sors de route des fois, tu bagnole qui part dans les graviers quoi, comme dans le film d'ailleurs. Oui, il y a un truc... quelque chose de très martelé comme ça, parce qu'il faut aller... Bah oui, qu'est-ce que c'est adapter une BD au cinéma? C'est adapter la sensation qu'on en a ou la sensation d'une BD au cinéma. Donc les sensations de BD, c'est une sensation de mouvement, c'est une sensation de bruit, c'est une sensation de son, c'est une sensation de dialogue martelé. Si tu hurles « n'y allez pas » sur une BD, tu grossis ta bulle et puis c'est marqué en grosses lettres grasses avec peut-être une tête de mort derrière et tout ça. Donc sur Spirou et Fantasio, la sensation de lecteur, elle est la rapidité. Elle est que ça trace, elle est qu'on ouvre une porte et on va ailleurs et ça fait avancer l'aventure. Et voilà, c'est de l'aventure. C'est vraiment un film d'aventure, quoi.
Alex Lutz, Thomas Soliveres, Fantasio et Spirou dans Les Aventures de Spirou et Fantasio, oui. Donc au cinéma ce mercredi. Je vous signale aussi le film d'animation japonais très réussi qui s'appelle Marie et la fleur de la sorcière, esprit Miyazaki, signé, attention, Hiromasa Yonebayashi.
Et ben bravo. Ouais. Et pour terminer, Stéphane, vous vouliez en fait nous dire un mot de Corps étranger, réalisé par la Tunisienne Raja Amari.
Oui, parce que par les temps qui courent, cette histoire de réfugiés clandestines arrivant en France après avoir fui son pays et son frère radicalisé remet certaines pendules à la bonne heure. Ben non, les migrants ne sont pas tous des terroristes en puissance. Il y a parmi eux, en effet, des êtres humains qui veulent s'intégrer dans leur pays d'accueil, commencer une nouvelle vie. Samia, l'héroïne du film, va trouver du boulot chez Leïla, elle aussi d'origine maghrébine, qui a réussi bien avant elle à trouver sa place dans la société française. Cette bourgeoise qui l'emploie à domicile, avec qui va se nouer une relation complexe, trouble même, arbitrée par la présence du beau Imed, qui exacerbe ses passions. Un jour, Samia décide de tenter de voler de ses propres ailes. Extrait.
Je pense que... j'ai terminé mon travail chez toi.
Tu n'es pas bien ici. Tu cherches quoi comme travail?
Là, je cherche une serveuse.
Serveuse? Mais c'est pire que tout. Tu peux même pas imaginer comment elles se font exploiter. Je sais de quoi je parle, je l'ai déjà fait.
Quoi? Tu veux que je reste ta bouniche?
Pourquoi tu me parles comme ça? D'ailleurs, je peux te payer plus.
Écoute, Madame Berthaud, c'est pas un problème d'argent. Malheureusement, tu ne comprends rien.
Toi, tu n'es rien sans papier. Tu comprends? Tu n'as aucune chance.
Yam Abbas, Sarah Anachi et Salim Keshiouch à l'affiche de Corps étrangers. Découvrez ça cette semaine dans vos cinémas.
Merci beaucoup pour ce point cinéma avec vous Stéphane Boutsock. Petit jingle qui nous annonce les résultats d'audience de la veille avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien c'est encore une bonne soirée pour France 3 puisque le téléfilm Né sous silence rassemble un maximum de téléspectateurs. 4 500 000 et 19% du public sur la 3. Devant Gone sur TF1 qui rassemble 4 060 000 et 17% sur la 1 donc. Et en troisième position, les pouvoirs du corps extraordinaire du corps humain. Et côté TNT, c'est Flic ou Voyou sur W9 qui est largement en tête avec 900 000 téléspectateurs.
Bah, on se retrouve dans quelques instants.
Il y a vraiment un effet Odile Villemain.
Oui, et il y a un effet fiction.
Bah, vous l'évoquiez hier, devant ce même micro. On se retrouvera pour nos programmes de la soirée à la fin de ce Laissez-vous tenter. Dans quelques instants, les express de... ah non, Steven Bellery en musique avec John Baez. Voilà.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Ça n'en finissait pas cette chanson, mais on l'a tous chantée, c'était assez émouvant. Hein. Musique à présent, vous l'avez compris, avec les confidences d'une icône ce matin. Elle a 77 ans, John Baez va cesser de courir le monde. La star de la folk se produira une toute dernière fois, 10 soirs. Hein, 10 soirs à l'Olympia, au mois de juin prochain, et elle publie la semaine prochaine un nouvel album. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez longuement rencontré John Baez lundi à Paris.
Oui, le regard tendre, les cheveux courts, argentés, un café au lait à la main. Ouais. John Baez a toujours la même gourmandise à se raconter, elle a décidé de tirer malgré sa révérence, mais avec élégance, une tournée mondiale et 10 nouvelles reprises. Elle paraît 10 ans de moins que son âge. Alors on s'interroge, pourquoi veut-elle s'éloigner de la scène ?
C'est la dernière fois que je pars en tournée. 6 semaines dans un bus, c'est fini. Je n'ai plus 50 ans. Quand j'avais la trentaine, j'avais vu un spécialiste de la voix pour la première fois. Je lui avais demandé comment je saurai quand il faudra que j'arrête de chanter. Il m'avait dit « ta voix te le dira ». Et les graves prennent le dessus finalement. Les cordes vocales sont un muscle et il faut les garder flexibles avec l'âge. Et ça veut dire de plus en plus de travail. J'ai pris la décision d'arrêter très naturellement. Un jour, j'ai dit à mon manager « déjeunons ». Et il a été merveilleux. Je ne sais pas à quel point je serai nostalgique dans 2 ans, mais aujourd'hui, je suis très à l'aise avec cette décision, car on fait les choses bien, et c'est accompagné d'un album. Et parce que j'ai envie de peindre.
I can't stay here, and I'm scared to leave, so kiss me once. Then I'll go to hell. I might as well be whistling down.
Whistle Down the Wind, qui donne son nom à son nouveau disque. John Baez chantera plusieurs extraits de cet opus lors de sa résidence parisienne. Elle m'a promis un concert très simple où elle interprétera également 4 ou 5 morceaux en français, une manière de remercier son public.
Il y a beaucoup de merci et d'accolades pour toutes ces fabuleuses années où j'ai fait ce que j'avais à faire. Et les gens ont répondu de manière si belle. Je ressens beaucoup de gratitude. Je pense que le public va me manquer. Quand ma mère avait 95 ans, je lui ai dit « Maman, je crois que je vais arrêter de chanter. » Et elle a dit « Mais t'es fan !» Quand elle a eu 97 ans, je lui ai redit la même chose et elle a répliqué « Ok, chérie, tu en as fait assez. » Et c'est un peu ce que je ressens.
Alors, dans son nouvel album, John Baez trace son sillon dans la musique folk, Steven, bien sûr.
Oui, une chanson engagée qui se veut le reflet de son époque. John Baez a sélectionné 2 titres de Tom Waits et des chansons beaucoup plus récentes de la scène alternative américaine. L'occasion de demander à celle qui chantait au festival de Woodstock en 1969 ce qu'est la folk.
Folk music for me today. Pour moi, la musique folk aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 60 ans. J'étais si pointilleuse. Il fallait être dans la tradition. De préférence, ne rien noter et transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, je pense que c'est plus simple. J'ai eu le choix, quand j'étais jeune, d'étudier à l'opéra, mais je me sentais littéralement plus les pieds sur terre avec la folk qui est plus humaine. Je me sentais plus en symbiose avec le monde. Et voilà, tout d'un coup, je suis la dernière feuille sur l'arbre. Et il y a tous ces jeunes qui arrivent. S'ils coupent la feuille, je reviendrai dans une chanson.
And I won't let go, really. You say, if they cut me down, I'll come back in a song.
Christmas mornings and New Year's Day, they flood with dreams and they drift away. They cling to love and covered doors while riding out this song.
Civil War de Joe Henry, revisité par John Baez. L'artiste a enregistré cette nouvelle collection de chansons avec la même guitare qu'elle avait utilisée pour son tout premier disque, une Martin en bois de rose, Confidence.
La dernière fois que je l'avais utilisée, c'était il y a 30 ans, parce qu'elle est très fragile. Je ne la fais pas voyager, elle habite à l'étage chez moi, et là j'ai senti que c'était le moment. Je l'ai complètement emballée et protégée, je l'ai mise sur mon dos et je lui ai acheté un siège à côté de moi dans l'avion, et je l'ai amenée avec moi dans le studio. Les nouvelles guitares, elles n'ont pas le même son. C'est l'âge qui fait ça, comme le bon vin.
Age, it sounds like good wine.
Oh my darling, oh my love. Oh my darling, oh my love. The things that we are made of.
Depuis 60 ans, John Baez n'a cessé en fait de mettre en musique la non-violence, Steven.
Oui, elle est devenue avec le temps le porte-drapeau des militants anti-guerre et pour les droits de l'homme, une chanteuse progressiste qui n'a toujours pas compris d'où venait son engagement.
C'est
intéressant que dans une famille où il y avait trois sœurs, une fait une chose et l'autre autre chose. Alors je pense que je devais être préparée génétiquement pour cela. J'ai trouvé une rage en moi, mais je n'ai jamais été en colère à proprement parler. Et je suis devenue, je ne sais trop quoi, une icône, un modèle, un mythe. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je suis ce que je suis. Et si les gens aiment ce que cela représente, je suis heureuse.
Un engagement qui ne s'est pas étiolé avec le temps, à la différence de son optimisme, John Bez.
To be anything but absolutely realistic does
not la plus réaliste possible, je ne vois pas beaucoup de lumière au bout du tunnel. Je me fais beaucoup de soucis pour ma petite fille. Je ne suis pas sûre qu'elle aura une vie entière à cause du changement climatique. Ça arrive si vite. Je ne suis pas amère, juste triste, surtout pour les États-Unis avec Donald Trump. C'est au-delà du répugnant. C'est vraiment diabolique ce qui sort de cette administration. Des choses horribles qui blessent les gens. La colère monte en moi maintenant. Non, que ce qui se passe dans mon propre pays est extrêmement méchant. Si tu es mexicain, noir, pauvre, trop vieux, handicapé, ils n'en ont rien à faire. C'est comme les nazis. Il y a beaucoup de nazis dans cette administration et autour. Et certains ne font même pas semblant d'être de vrais nazis et suprémacistes blancs. Anything but a true Nazi and white supremacist. I need another world.
This one's nearly gone. John Bez est en concert du 4 au 17 juin à l'Olympia à Paris. Whistle Down the Wind, son nouvel album, sortira le vendredi 2 mars. John Bez m'a expliqué que peut-être elle enregistrera un autre disque. Elle évoque même la possibilité de se produire dans des festivals, probablement de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas plus de 25 minutes dans le futur. Another world. Another world.
I'm gonna miss the sea. Merci beaucoup Stephen Bellery pour ses confidences et cette rencontre avec John Bez. Dans quelques instants, Olivia Leray et à la une de nos express, Jennifer Lawrence, vous voyez. Ça vous intéresse, hein.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les express LVT.
Nos express du jour, livrés évidemment par Olivia Leray. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci de nous livrer ces express. Alors oui, selon la formule consacrée, boum, elle les a livrés. Alors la star américaine Jennifer Lawrence met sa carrière entre parenthèses pendant un an.
Oui, l'actrice de la saga Hunger Games, oscarisée en 2013 pour Happiness Therapy, était à Londres hier pour la promotion du film d'espionnage Red Sparrow, film qui sortira le 4 avril prochain en France. Stéphane Boutsock, ici présent, l'a rencontré en exclusivité radio, s'il vous plaît. Et Jennifer Lawrence lui a expliqué les raisons de cette pause. L'année qui vient, je vais juste réfléchir à de nouveaux projets. Je ne vais donc pas tourner, mais développer des choses. Et je vais en profiter pour faire un tour d'Amérique afin de parler aux jeunes militants politiques. Dans l'idéal, j'aimerais passer dans chaque État pour dénoncer les lois gangrénées par les lobbies et les grands groupes. Il y a du boulot, non ? Et l'entretien est à retrouver en vidéo sur RTL.fr.
Et le film sort donc le 4 mars, on en reparlera évidemment.
Évidemment. On jette un coup d'œil comme chaque mercredi sur le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express.
Très haute tête inchangée pour la catégorie roman avec dans l'ordre L'Enfant perdu, le dernier tome de la saga napolitaine d'Elena Ferrante, L'Amie prodigieuse, suivi de Couleur de l'incendie de Pierre Lemaître et de L'ouvrage posthume de Jean d'Ormesson et Moi, je vis toujours. Du côté des essais et documents, Le miracle Spinoza du philosophe Frédéric Lenoir se classe numéro 1 cette semaine.
Palmarès complet consulté dans les colonnes de notre confrère L'Express. Presque comme chaque semaine. L'aventure du centre Pompidou à Malaga en Espagne va se poursuivre jusqu'en 2025.
Partenariat renouvelé pour 5 ans. Le centre délocalisé a accueilli 500 000 visiteurs depuis son ouverture en 2015 dans la ville natale de Pablo Picasso. Une ville qui compte 600 000 habitants. Rappelons qu'il s'agit de la première implantation de Beaubourg à l'étranger. Deux autres projets ont déjà été annoncés. Un autre centre Pompidou à Shanghai, ce sera pour 2019. Et un espace réservé à Beaubourg à Bruxelles, ce sera pour 2020.
On connaît les premières mesures du plan bibliothèque du gouvernement.
Ouvrir plus pour ouvrir mieux. Emmanuel Macron appelle les collectivités locales à étendre les horaires le soir et pourquoi pas le dimanche. Le président s'appuie sur le rapport de l'académicien Éric Orsena sur RTL hier soir. Il a annoncé la création d'un label pour récompenser les communes les plus dynamiques en termes de lecture. Écoutez.
Le retard, on va le rattraper évidemment de toutes les forces et donc on va évidemment mesurer tout le progrès de l'ouverture premièrement. Et puis, on va les pousser un peu aux fesses, si je puis dire, les élus. Il y aura un petit label. C'est-à-dire que, comme les villages fleuris, eh bien, ceux qui aiment un peu le livre, ils auront à l'entrée de la ville un livre. Et puis, ceux qui aiment beaucoup le livre, trois livres. Et puis, il y aura d'autres qui n'auront aucun livre. Eh bien, à ce moment-là, libre aux électeurs qui voudraient être lecteurs, de plus être électeurs, et donc de virer les municipalités qui n'auront pas donné suffisamment de place aux livres.
Eric Orsena. Et puis c'est tout pour moi.
C'est très bien. C'est déjà très très bien. Et c'était les Express d'Olivia Doré. Oui, absolument, continuez comme ça. Alors, chose promise, chose due. On parle de nos programmes télévisés avec vous, Isabelle Monibosque, que vous avez tenu à saluer la série française Lebowitz contre Lebowitz, arrivée en tête des audiences mercredi dernier sur France 2.
Oui, elle est très réussie, cette fiction racontant le quotidien de deux avocates qui se sont partagées le même homme, patron d'un cabinet qu'il a créé avec la première Madame Lebowitz, Clémentine Célarier, mais qu'il a léguée à la seconde, Caroline Anglade, à qui il a fait un bébé alors qu'il a plutôt fait un enfant dans le dos de la première. Hein. Ah bon. Inutile de dire qu'aucune des deux ne loupe une occasion de débiner l'autre. Là, Clémentine Célarier.
Maître Lebowitz.
Oui.
Émilie Richard, c'est moi que vous avez eu au téléphone.
Oui, c'est possible. On se connaît comment déjà?
On se connaît pas. Non, j'ai déposé une demande de stage l'année dernière dans votre cabinet. Je suis en maîtrise de droit.
Vous savez, moi, les stagiaires... Enfin, le prenez pas personnellement. C'est juste que la dernière fois qu'on en a pris une au cabinet, elle m'a appliqué mon mari, elle lui a fait un enfant. Bon, on s'en fout. Parlez-moi plutôt de...
Voilà, toutes les deux portent très bien la robe, 21h, la 2.
Alors, vous aimez aussi la spéciale bourguignonne de l'émission Des Racines et les Ailes sur la
3. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau, la Bourgogne. Ah, c'est ce qu'on se dit dès la première de ces deux heures d'images consacrées donc à la Bourgogne et à ceux qui veulent y vivre. Par exemple, en redonnant vie au château, au village ou en légumes bourguignons. On a par exemple Laurent, acharné à développer une plante avec de jolies fleurs blanches.
La Chilée, par exemple, elle est très commune ici. On l'appelle l'herbe aux soldats parce que les poilus de la guerre 14-18 en avaient tous dans leur besace des poignets séchés. Ça permet d'avoir un pansement qui arrête le flux sanguin. J'ai fait pousser de la roche aussi, ça s'appelle de la roche rouge. C'est une plante comestible assez intéressante parce qu'on la mange comme des épinards. Moi, j'ai envie de la commercialiser parce qu'elle est vraiment délicieuse. On n'en trouve pas aujourd'hui parce qu'elle ne supporte pas le transport. Je suis prêt à planter énormément d'arroches pour que dans un an, je puisse vivre de ma production.
C'est sympa.
Alors, il y a encore Marie Gollet qui a ouvert une boutique de maraîchers dans un local désaffecté depuis des années à Luzy.
Ça faisait longtemps que je voyais cette boutique fermée. C'est vrai qu'on a commencé à chercher un local sur Luzy ou installer notre boutique. Celui-là, il nous plaisait parce qu'il a du cachet, il a une belle devanture et c'était redonner une vie à ce magasin fermé depuis longtemps. Donc c'était vraiment chouette. C'est vrai qu'on arrive ici pour des vacances et on y est resté. Et on sent qu'on est plein dans ce cas-là, quoi.
Alors, elle plante ses choux, mais pas l'émission, c'est vraiment formidable. 21h05, 10, elle est là, 3.
J'aime beaucoup les choux, les faux épinards, mais on parle un petit peu aussi de grappes, vous voyez ce que je veux dire?
Chacun son truc.
Comme en Bourgogne, vous voyez.
C'est plus connu, le vin.
Bah voilà. Alors, j'ai entendu à 6h20 qu'il y avait du nouveau dans Top Chef.
Oui, chaque grand toquet a une brigade, et ce soir, tous les candidats de chaque brigade doivent s'affronter à l'ensemble, chercher une qualification ou pas. La pression est énorme, il faut franchement pas compter sur Philippe Etchebest pour la faire retomber. Il tourne comme un fauve, par exemple, autour de Camille, qui fait des plats de génie, visuellement moches.
Victor, viens jeter un œil.
C'est qui ça? C'est très moche.
Camille, allons, garçon, allez. C'était trop académique.
Alors, le pauvre Camille, il est franchement pas dans son assiette. Il les aime pourtant.
C'est trop académique ou c'est trop moche?
C'est pas trop, la même chose. Les deux. Pour Philippe Etchebest, si c'est trop académique, c'est trop moche. Bon. Comme on le faisait il y a 20 ans.
Oui, voilà. Dans ma cuisine.
Alors, il les aime pourtant, ces candidats, Philippe Etchebest, même si, pour l'instant, il renonce à ce Tour de France qui lui permettait chaque année de débusquer le meilleur apprenti de France.
L'accumulation de Top Chef, Objectif Top Chef et Cauchemar en cuisine me prenait beaucoup de temps. Donc, j'ai réduit les activités télévisuelles de moitié. Voilà, parce que j'ai un métier aussi, j'ai un restaurant à tenir, donc je ne pouvais pas cumuler tout ça. Malheureusement, je dirais que la chaîne a choisi d'arrêter Objectif Top Chef. Pour eux, ça a été un coup dur parce que c'est une émission qui marchait bien. Et en plus, moi, j'adorais ça parce que ça fait partie de mon quotidien. C'est la transmission. Et d'ailleurs, j'en ai pris dans ma brigade de cuisine. Hein. J'en ai pris 3.
Et qui ont tenu le coup, si j'ose dire.
Bien sûr, mais pourquoi ils ne tiendraient pas le coup?
Non, tenu le coup, je veux dire le rythme parce que c'est dense.
Ben, c'est dense. Après, il y a des règles aussi. Hein. Vous savez, ils ne travaillent pas 15 heures par jour non plus dans le restaurant. Ils font 8 heures comme tout le monde. Non, mais puis ils sont là pour apprendre. Donc, non, c'est une belle expérience pour eux.
Également en plus.
Oui, c'est ça. Il est également accusé
par quelques grands chefs de s'activer dans Top Chef et dans Cauchemar en cuisine pour l'argent et la pub. Je lui ai demandé si ça le blessait vraiment.
Ouais, toujours. Je défends ma cause et je lâche pas, je lâche rien de toute façon. Mais j'ai des arguments, hein, et effectivement, les gens qui doutent, souvent, l'entendent. Mais il faut que je l'explique.
Toujours 70% de réussite d'un cauchemar.
75, hein, les derniers que j'ai été voir, là, tout se fonctionne. Donc j'en suis vraiment ravi. Ce que les gens ne savent pas aussi, c'est qu'il y a quand même derrière Cauchemar en cuisine, quand je suis passé, il y a une autre société qui suit les restaurants pendant 6 mois, qui leur donne des outils de gestion, de comptabilité, justement, pour faire en sorte qu'ils y arrivent. Il y a mon passage, certes, mais derrière, il y a un vrai suivi. Et ça, les gens ne le savent pas. Ça ne s'arrête pas qu'à une émission. Pour moi, c'est une obligation. Même après mon départ, je leur mets la pression, je dis attention, mon candidat. Voilà, la seule façon dont vous pourrez me remercier, c'est de réussir derrière. Voilà, je donne tout et je le fais toujours avec beaucoup de sincérité.
Et j'ai vérifié, il y a bien 75% de réussite d'un cauchemar en cuisine. Et il vient donc effectivement d'être étoilé pour son restaurant bordelais, dont j'ai oublié le nom.
Le quatrième mur, c'est où? À l'Opéra.
Dans le grand théâtre de Bordeaux.
Exactement face à celui de l'anglais Gordon Ramsay, qui fait la version anglaise de Top Chef.
Absolument. Bon, en tout cas, moi je le trouve très sympathique, cet Chef.
Ah, moi je l'aime énormément.
Et il est quand même extrêmement drôle dans toutes ses émissions. Quand il nous fait des humeurs, je suis très très bon public.
Tout à fait.
Merci infiniment, Isabelle. Dans quelques instants, on va se séparer et accueillir Julien Courbet, voilà.
RTL, première radio de France.
Vous savez quoi, mes enfants, là, je disais Guillermo del Toro, oui. Spirou, oui. John Baez, oui. Jennifer Lawrence, oui. La Bourgogne, oui. Et Christophe Etchebest.
On est pas mal.
C'est un bon moment. Voilà, on est pas mal du tout. Et ça nous permet d'accueillir.
C'est pas Philippe Etchebest ?
Philippe Etchebest.
Je l'ai appelé comment ?
Christophe. Mais il mériterait de s'appeler Christophe.
Ouais, quand même Sébastien Maurice. Parce que franchement, bon, en tout cas, il est temps de retrouver Julien Courbet.
Eh bien, merci les infos. Vous écoutez RTL.